Donc c'est Lens qui parle. Hier, en remontant le flanc de la vallée, j'ai vu deux jeunes filles assises sur une pierre. L'une nouait sa chevelure, l'autre l'aidait. Ses cheveux d'or pendaient défaits, un visage pâle et grave, si jeune pourtant, et le costume noir, et l'autre qui s'affairait avec tant de soin. Les tableaux les plus beaux et les plus touchants des vieux maîtres allemands donnent à peine une idée de cela. On voudrait parfois être une tête de méduse pour pouvoir changer en pierre un groupe comme celui-là et appeler les gens. Elles se levèrent et le beau groupe fut détruit. Mais déjà, comme elles descendaient entre les rochers, se formait une autre image. Donc voilà, c'est cette référence à la tête de Méduse, vous savez, donc Méduse, ce personnage mythologique qui pétrifie les gens de son regard, c'est déjà pour moi une sorte d'annonce d'un désir de saisir les choses par la photographie, et en même temps, dans un monde où sans cesse mouvant et où des images se forment continuellement. Je vais vous montrer peut-être quelques images un peu plus loin. Voilà, plus il s'exaltait, plus bas il retombait. Bon, sans commentaire, mais j'avance un peu, je vais vous montrer les dernières images de cette séquence. J'ai pas mis tout le livre, mais j'ai pas voulu couper dedans. À partir de là, on entre dans une nouvelle séquence, qui est une séquence où Lens bascule dans la folie de nouveau, et est pris de terreur. Et vous verrez à la fin de la présentation que la peur joue un rôle important dans la description du paysage, dans le dernier texte dont je vais vous parler, le texte de Thomas Gray, ce qui peut paraître parfois un peu surprenant pour nous aujourd'hui, mais c'est très fréquent dans la période du XVIIIe siècle et du romantisme. Et je me souviens, en prenant cette photographie-là, c'est le socle, enfin c'est un rocher sur lequel est perché un donjon en pleine forêt, et je me souviens d'avoir eu très très peur ce jour-là. Il pleuvait, le vent hurlait, enfin j'étais vraiment pas tranquille, j'étais tout seul dans la forêt. Donc je m'étonne un petit peu moins en repensant à cette image que l'on puisse décrire la montagne comme quelque chose de terrifiant, comme vous le verrez dans les textes que je lirai plus tard. Et voilà, vers le soir, une peur singulière le prit. Il voulut courir après le soleil. Au fur et à mesure que l'ombre enveloppait les choses, tout prit pour lui des allures de rêve, devint pénible. Il ressentit l'angoisse des enfants qui dorment dans le noir. Il eut l'impression d'être aveugle. Bon, et en parlant d'aveugle, je termine sur une sorte de clin d'œil, qui est une image que j'ai faite en prenant l'image précédente. Voilà. Une sorte d'autoportrait de mon appareil. Bon, je vais passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais vous parler d'une autre figure de promeneur, qui est cette fois-ci un promeneur beaucoup plus proche de nous et un promeneur des villes. C'est Walter Benjamin, à qui j'ai consacré pas mal de temps et de lecture. J'ai notamment publié un livre qui est là, vous pourrez le regarder tout à l'heure, il y a 2 ans, qui s'appelle « Mais de quoi ont-ils si peur ?», qui est un livre autour du premier séjour de Walter Benjamin à Marseille. Walter Benjamin est allé à plusieurs reprises à Marseille et il a écrit de très très beaux textes sur cette ville. Et ce livre-là est un projet assez original, je le dis avec d'autant plus de facilité que le projet ne vient pas de moi. C'est quelque chose à quoi on m'a demandé de participer. C'est Christine Breton, qui est une historienne qui travaille à Marseille depuis des années, qui a un travail formidable sur l'histoire de cette ville, qui est à l'origine de ce projet. Et en fait, l'idée de Christine Breton, c'était de relire les textes que Walter Benjamin, Siegfried Krakauer et Ernst Bloch avaient consacrés à Marseille, puisque ces 3 écrivains philosophes allemands sont venus en même temps à Marseille, ils étaient amis, et ils sont venus notamment pour rencontrer la rédaction de la revue des Cahiers du Sud, dans laquelle Ernst Bloch publiait un article. Et donc Christine Breton a voulu mettre en relation les textes que Krakauer et Benjamin ont écrits sur Marseille avec la démolition d'un quartier du centre-ville, qui est ce quartier qu'on appelait à l'époque le quartier de derrière la Bourse, qui a été entièrement démoli entre 1913 et 1937. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Marseille, on a là-dessous la Canebière, c'est la Bourse, le Vieux-Port, et là c'est le cours Belzunce. En fait, il y avait donc là un quartier très ancien, qui datait de la fin du Moyen-Âge, qui était un quartier d'artisans. Et on a démoli ce quartier sans aucun projet de reconstruction jusqu'à ce qu'on construise dans les années 70 ce qu'on appelle le centre bourse, qui est un énorme centre commercial. Et donc aujourd'hui, il y a ici un centre commercial, les vestiges du port antique qui ont été exhumés et qui font partie de... Enfin, il y a un jardin qui s'appelle le jardin des vestiges. Il y a des immeubles de bureaux. Et puis les seules habitations qui sont sur ce périmètre, ce sont trois tours qu'on appelle les tours La Bourdette, qui ont été construites en 62, et dans lesquelles, enfin, et Christine Breton donc habite dans l'une de ces tours, et donc c'est aussi en tant qu'habitante qu'elle voulait faire un travail sur l'histoire de son quartier et sur la démolition qui a rendu possible la construction de ce centre commercial et de ces tours. Je vais vous lire l'extrait d'une conférence que j'ai donnée à Marseille au musée d'histoire de Marseille, donc dans le cadre de la présentation d'une présentation de ce livre. Donc c'est pas exact, ça suit pas exactement le contenu du livre, mais enfin ça me permet d'évoquer les pratiques de promenade de Walter Benjamin et la manière dont il pouvait réfléchir sur le paysage urbain et le contexte urbain. Je vais vous mettre une petite citation que je vais lire tout à l'heure. Face aux transformations que subissent les grandes villes, Walter Benjamin et son ami Siegfried Krakauer préconisaient la promenade urbaine. En réaction à la vogue des films d'explorateurs, Krakauer appelait ces promenades des explorations géographiques dans le proche. Benjamin, lui, dans le chapitre consacré au Tiergarten, le grand jardin public de Berlin, qui ouvre son recueil intitulé « Enfance berlinoise », avance une autre formule. C'est celle-ci que je vais vous lire, donc. « Ne pas trouver son chemin dans une ville ne signifie pas grand-chose. Mais s'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt demande tout un apprentissage. Il faut alors que les noms des rues parlent à celui qui s'égare, le langage des rameaux secs qui craquent, et les petites rues du centre de la ville doivent pour lui refléter les heures du jour aussi nettement qu'un vallon de montagne. S'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt. Cette phrase m'a toujours laissé songeur. Je l'ai inscrite sur les premières pages de mon livre de photographie sur Marseille, Marseille, fragment d'une ville. Que signifie donc faire comme si la ville était une forêt? Longtemps, j'ai résolu la question en me disant que Benjamin avait déplacé au cœur des villes la promenade romantique au sein de la nature. Dans un fragment de 1921, intitulé « Le capitalisme comme religion » et publié au PUF, on trouve la formule suivante. « Vaincre le capitalisme par la marche à pied ». Mais la traduction française est inexacte, ou plutôt trop précise. L'allemand dit « Überwindung des Kapitalismus durch Wanderung »« Surmonter le capitalisme par la Wanderung ». La Wanderung, c'est à la fois le voyage, la longue promenade, l'errance, mais aussi la migration. C'est un motif cher au romantisme allemand que l'on retrouve chez Goethe, chez Schubert, chez le peintre Caspar David Friedrich, ou encore chez Büchner, dont je viens de vous parler avec ce personnage de Lenz. Mais l'expression « surmonter le capitalisme par la Wanderung » est tirée d'un ouvrage d'Erich Unger, un philosophe anarchiste qui prétendait que pour surmonter le capitalisme, il fallait que le peuple sorte des cadres territoriaux imposés par ce dernier. La traduction exacte et complète de l'expression serait donc « surmonter le capitalisme par la migration des peuples ». Wanderung, ce n'est donc pas ici une simple promenade. Même si la Wanderung romantique recèle parfois une valeur politique, la volonté de s'exiler d'une société autoritaire, comme pour le Lenz de Büchner. S'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt. L'idée que Benjamin a déplacé au cœur des villes la promenade romantique dans la nature me vient en fait de ma propre expérience, celle de la découverte, au début des années 2000, de la promenade urbaine, en compagnie de l'artiste Laurent Malone et de l'historienne Christine Breton, dans les quartiers nord de Marseille. À condition de faire de longues distances, parfois du matin au soir, on pouvait randonner en ville comme on randonne dans la nature. Sous les pas du marcheur, la ville, un paysage né des concrétions de l'histoire, redevenait vallée ou colline. Marcher en ville, comme on marche dans la nature, transformait le regard sur le cadre le plus immédiat de la vie quotidienne, faisait remonter sous l'asphalte toute une géographie, permettait d'établir des relations entre des espaces habituellement isolés, d'aller à la rencontre de l'autre et d'éprouver sa propre liberté. Ce fut pour moi une révélation. La présence d'images empruntées à la nature dans les textes de Benjamin sur la ville m'a souvent interrogé. Or, la formule d'enfance berlinoise, comme plusieurs des formules ou images frappantes de Benjamin, a une histoire. Il en existe au moins trois versions, et la première se trouve dans un texte intitulé « Le retour du flâneur ». Le retour du flâneur est un article que Benjamin a consacré en 1929 au livre de son ami Franz Hessel, « Promenade dans Berlin ». Franz Hessel, du mot même de Benjamin, fut un de ceux qui l'initia à la promenade urbaine, qu'il nomme « flânerie », et cela à Paris, en 1926, avant le séjour de Benjamin à Marseille, alors qu'ils travaillaient, Franz et lui, à la traduction d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je vais vous lire un extrait du Retour du flâneur, où on voit apparaître l'image qui sera reprise dans Enfance berlinoise. Dans les lignes qui précèdent ce passage, Benjamin essaie de comprendre pourquoi c'est Paris et non Rome qui est devenue la terre promise du flâneur. Selon lui, c'est parce que Rome est saturée de monuments historiques, donc de représentations toutes faites, qu'elle empêche l'imagination du flâneur de s'épanouir. Et il poursuit ainsi. Car Paris, ce ne sont pas les étrangers, mais les Parisiens eux-mêmes qui en ont fait la terre promise du flâneur, ce paysage composé de vie pure dont a parlé Hofmannsthal. Un paysage, c'est effectivement ce qu'elle est aux yeux du flâneur, ou plus précisément, la ville s'offre à lui en l'écartelant entre ses deux pôles dialectiques. Elle s'ouvre à lui comme paysage, elle l'enferme comme chambre. Concédez à la ville un peu de votre amour du paysage, dit Franz Hessel aux Berlinois. Ah, s'ils voulaient ne voir que le paysage dans leur ville. Même s'il n'y avait pas le Tiergarten, ce bosquet sacré de la flânerie, la ville serait encore pleine de paysages. Si seulement ils sentaient le ciel, aussi bleu que sur les chaînes de Langadine, se tendre au-dessus des arches du métro aérien, le silence s'élever du tohu-bohu comme d'un ressac, et les petites rues du centre de la ville refléter les heures du jour aussi nettement qu'un vallon de montagne.